إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous continuons aujourd'hui la lecture et l'explication de l'épître de l'imam Ibn Rajab, رحمه الله تعالى, intitulé Al-Farq بين النصيحة والتعيير, la différence entre le conseil et le dénigrement. Nous avons vu dans le cours d'hier l'importance pour le musulman de savoir faire la différence entre le conseil et le dénigrement, et ce, afin de ne pas tomber dans le dénigrement des musulmans en pensant les conseiller, et inversement, afin de ne pas rejeter les conseils en pensant que ceux-ci sont des dénigrements. Et on a mentionné que la base concernant les paroles sur autrui est qu'elles sont interdites sauf s'il y a un intérêt religieux. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'intérêt religieux à parler sur un musulman, alors il n'est pas permis de mentionner à son sujet une chose qu'il réprouve. Et ceci est un point très important, duquel chacun d'entre nous doit avoir conscience, et faire des efforts afin de préserver sa langue de toute parole futile, et de toute parole qui ne contient aucun intérêt. Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala a dit à ce sujet dans Riyad al-Salihin, « Sache qu'il convient à toute personne responsable, pubère et douée de raison, de préserver sa langue de toute parole, c'est-à-dire de manière absolue, de toute parole, sauf une parole dont l'intérêt est apparent. C'est-à-dire que la seule parole qu'il convient que tu prononces, c'est une parole qui a un intérêt, que ce soit un intérêt religieux ou un intérêt mondain. Il dit ensuite, « Et lorsque le fait de prononcer cette parole ou la délaisser sont égaux en termes d'intérêt. C'est-à-dire que cette parole ne comporte pas réellement un intérêt et que ne pas la prononcer est égal. Il n'y a pas de différence que tu la prononces ou que tu ne la prononces pas. Il dit alors, la sunnah est de se taire, de ne pas prononcer cette parole. Car il se peut que la parole qui est permise mène à la suite à l'interdit ou à des paroles détestables. Et ceci est généralement fréquent. Et rien n'équivaut au salut. C'est-à-dire que rien n'équivaut au fait de te mettre à l'abri, de préserver ta langue et de délaisser ces paroles qui sont futiles, qui ne comportent ni intérêt religieux ni intérêt mondain. Et ensuite, il a mentionné différents hadiths démontrant cela. Parmi eux, ce hadith bien connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, d'après Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » Qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Soit ta parole est un bien, alors tu la prononces. Soit cette parole est un mal, alors tu ne dois pas la prononcer. Soit tu ne sais pas si elle est un bien ou un mal, alors tu te tais. La sunna dans cette situation est de te taire. Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala dit « Ce hadith est explicite. » Quant au fait qu'il convient de ne pas parler, si ce n'est pour prononcer le bien, c'est-à-dire une parole dont l'intérêt est apparent. Et s'il doute au sujet de cet intérêt, alors il ne parle pas. Il délaisse cette parole. Si tu ne sais pas si ta parole a un intérêt ou non, alors la sunna est de la délaisser. Ensuite, il a mentionné le hadith, également rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après Abi Moussa radiyallahu ta'ala anhu qui a dit « J'ai dit ô messager d'Allah, quel est le meilleur des musulmans ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. » C'est-à-dire à l'abri des méfaits de sa langue et des méfaits de sa main. Et dans un autre hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, d'après Sahl ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui me garantit ce qu'il y a entre les deux extrémités de sa bouche, c'est-à-dire sa langue, et ce qu'il y a entre ses deux jambes, c'est-à-dire ses parties intimes, Alors je lui garantis le paradis. Allahu Akbar. Je lui garantis le paradis. Pourquoi? Car il aura préservé sa langue des paroles interdites et préservé également sa chasteté. Donc tous ces hadiths, ils nous démontrent l'importance pour le musulman de tenir sa langue et de ne parler que lorsque sa parole comporte un intérêt. Et tu ne dois pas penser que sous prétexte que certaines paroles ne sont que des mots que tu prononces et qui peut-être tu auras oublié quelque temps après les avoir prononcés. Ceux-ci sont sans gravité. Au contraire, dans un hadith également rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, rapporte qu'il a entendu le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à dire « Certes, le serviteur peut prononcer une parole à laquelle il ne prête pas attention, c'est-à-dire il ne réfléchit pas à savoir est-ce que cette parole est bonne ou non. Ne lui prête pas attention, il la prononce sans réfléchir. Il plonge alors dans le feu de l'enfer à cause de cette parole, d'une distance aussi longue que ce qu'il y a entre l'Est et l'Ouest. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Donc on a vu hier que la base pour le musulman est de tenir sa langue, de ne pas parler sur autrui, de préserver l'honneur des musulmans. Mais on a vu que lorsqu'il y a un intérêt religieux prépondérant, et que cet intérêt religieux ne peut être atteint qu'en parlant sur une personne, en dénonçant ses défauts, ses erreurs, sa voie déviante, son innovation, alors dans ce cas-là, il est permis de parler sur lui. Car ceci fait partie de la nasiha, du bon conseil, et de la préservation de la religion. Donc l'imam Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, après nous avoir exposé cela, il dit ensuite: وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل. Et les savants du hadith ont stipulé cela dans leurs livres concernant la critique et l'éloge. وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة. Et ils ont mentionné la différence entre la critique des narrateurs du hadith, et la médisance. On a vu que la médisance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a définie comme étant le fait de mentionner au sujet de ton frère une chose qu'il réprouve. Et ceci est interdit. Si cette parole est prononcée simplement pour le critiquer, le rabaisser, le dénigrer, que cette parole n'est pas prononcée dans un intérêt religieux, alors celle-ci est interdite. Ceci est la médisance. Quant à la critique des narrateurs du hadith, celle-ci a un intérêt religieux, et c'est la préservation de la religion et de la sunna, des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que ne soient pas mêlées à celle-ci des paroles fausses, des paroles inventées, des paroles qui ne sont pas confirmées de lui. Il est donc nécessaire de savoir est-ce que ces rapporteurs sont fiables, dignes de confiance, ou alors est-ce que ce sont des menteurs qui ne sont pas dignes de confiance, ou alors des gens qui inventent des hadiths et ainsi de suite. Et ceci a un noble objectif qui est la préservation de la religion. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَرَدُّ عَلَى مَنْ سَوَّ بَيْنَهُمَا مِنَ الْمُتَعَبِّدِينَ وَغَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَا يَتَّسِعُ عِلْمُهُ. Et ils ont réfuté, c'est-à-dire les savants du hadith, ils ont réfuté ceux qui n'ont pas fait de différence entre les deux, entre la médisance et la critique des narrateurs du hadith, parmi les adorateurs et autres que parmi ceux dont la science n'est pas vaste. Regardez comme ils qualifient ces gens qui ont reproché aux savants du hadith leurs paroles sur les narrateurs du hadith. Il dit parmi les adorateurs, c'est-à-dire les mutasawwifah. Ils blâmaient les savants du hadith lorsque ceux-ci disaient « Un tel est un menteur, un tel invente des hadiths, un tel est un pervers, un tel est un innovateur. » Un tel a une mauvaise mémoire, et ainsi de suite. Les savants du hadith, comme on a dit, ils prononçaient ces paroles dans le but de préserver la religion. Et eux, en entendant ces paroles, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient, vous faites de la médisance. Vous portez atteinte à l'honneur des savants. Alors les savants du hadith les ont réfutés. Et ils ont clarifié que l'objectif derrière ces paroles est la préservation de la religion, et non pas la médisance. On rapporte d'Ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, qu'il dit au sujet d'un narrateur, que c'était un menteur. Alors quelqu'un parmi les soufis est venu à lui et lui a dit « Oh Abba Abdurrahman, tu fais de la médisance. Alors l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, lui a dit: Uskut, tais-toi. Si nous ne clarifions pas cela, comment les gens vont distinguer le faux de la vérité? Également, il est rapporté de Muhammad ibn Bandar al-Jurjani, rahimahullah ta'ala, qu'il a dit à l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah: Il est difficile pour moi de dire un tel est faible, un tel est un menteur. Il ressentait de la gêne à dire cela. Comme on le voit chez certaines personnes aujourd'hui, qui sont gênées par les critiques des innovateurs. Ils ont du mal à dire un tel est un innovateur, un tel est un pervers, un tel est ceci, un tel est cela. Ils pensent que cela relève de la médisance ou des paroles interdites. Donc il dit à l'imam Ahmad, j'ai du mal à dire cela. Il est difficile pour moi de dire un tel est faible, un tel est un menteur. L'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, lui alors dit, si toi tu te tais, et moi je me tais, quand est-ce que l'ignorant pourra-t-il distinguer ce qui est authentique et ce qui ne l'est pas? Donc vous voyez que ces imams, ils n'ont pas considéré ces paroles comme relevant de la médisance. Ils ont fait la distinction entre la critique qui a pour but la préservation de la religion et la médisance qui n'a lieu que pour des raisons personnelles ou pour le désir, le suivi des passions ou des conflits qui ne sont pas religieux ou autres. Le fils de l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, a dit « Un jour Abu Turab est venu à mon père et mon père disait « Un tel est faible, un tel est digne de confiance. » Alors il lui a dit, « Oh, cheikh, ne médis pas sur les savants. Ne fais pas de la médisance sur les savants, sur les rapporteurs du hadith. » Alors l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, s'est tourné vers lui et lui a dit, « Malheur à toi. Ceci relève de la nasiha. Ceci relève du bon conseil. Et cela n'est pas de la médisance. » On voit donc que les grands imams de la sunna, les grands imams du hadith, depuis les premiers siècles, ils ont réfuté cette ambiguïté que l'on cesse d'écouter jusqu'à nos jours. Et même ces mots qu'ils ont employés, ce sont devenus des terminologies qui sont aujourd'hui étudiées dans les facultés du hadith. C'est une science au sujet de laquelle des livres ont été écrits et sont étudiés et enseignés. C'est donc une science immense. C'est pour cela que nos savants ont sévèrement blâmé ceux qui méprisent cette science et ne lui donnent aucune considération. Car cette science a pour objectif la préservation de la religion. L'imam Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah ta'ala, a dit cette parole bien connue de lui qui est « Al-Isnad min ad-din ». Al-Isnad, c'est la chaîne de transmission. La chaîne de transmission d'un hadith. Un tel rapporte que un tel rapporte que un tel et ainsi de suite. Il dit ceci fait partie de la religion. Et s'il n'y avait pas l'Isnad, s'il n'y avait pas la chaîne de transmission, chacun aurait dit ce qu'il voulait. Et il a dit vrai, rahimahullah ta'ala. S'il n'y avait pas ces chaînes de transmission, et que nous n'aurions pas su la situation de ces narrateurs, de ceux qui rapportent ces hadiths, alors chacun aurait pu dire ce qu'il voulait. Comme nombre de personnes le font aujourd'hui, parmi ceux qui craignent peu Allah subhanahu wa ta'ala, et qui parlent sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Ceci est interdit, ceci est licite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et il sort parfois de nombreuses choses de sa tête, sans aucune source, sans aucune référence. C'est pour cela que nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, ont été très stricts à ce sujet. Comme l'a mentionné Ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, dans cette parole bien connue que vous connaissez certainement tous, « Cette science est une religion. Regardez donc de qui vous prenez votre religion. » La religion ne l'apprend pas de n'importe qui. La religion ne l'apprend pas n'importe où. La religion ne l'apprend pas sur n'importe quel site internet. La religion ne l'apprend pas sur les réseaux sociaux en suivant une multitude de personnes dont j'ignore l'identité et, avant cela, les aptitudes religieuses pour pouvoir parler sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette science est une religion. Regardez donc de qui vous prenez votre religion. Et c'est pour cette raison que les gens de science ont fait la différence entre la critique des narrateurs et la médisance comme vous l'avez entendu. Et Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, nous dit que les savants du hadith ont réfuté ceux qui n'ont pas fait la différence entre ces deux choses. Parmi les adorateurs, on a vu qu'ils visaient par cela le mutasawwifa. Et autre que parmi ceux dont la science n'est pas vaste. En effet, beaucoup de personnes, en raison de leur manque de science, lorsqu'ils écoutent la critique des narrateurs, ou qu'ils entendent la critique de certaines personnes parmi les déviants, ils pensent que ceci relève de la médisance. Et ces gens ne sont-ils pas encore présents aujourd'hui? N'y a-t-il pas encore des gens parmi nous, parmi les musulmans, qui lorsqu'un savant met en garde contre une personne déviante ou réfute une personne qui s'est trompée qui s'est opposé à la sunna sur certaines questions religieuses, ou qui a été dans l'erreur sur certaines questions. Lorsque le savant parle, ils disent « Ne parlez pas sur les savants, ne dénigrez pas les savants, ne méprisez pas les savants » et ainsi de suite parmi leurs paroles. Et tout ceci en raison de leur ignorance de ces points fondamentaux qu'ont stipulés les grands savants du hadith dans leurs livres et ce depuis les premiers siècles de l'islam. Et d'autres ne le font pas par ignorance, ils le font par suivi des passions, ou par fanatisme pour leurs enseignants, leurs chouyours, leurs mashayikh qu'ils suivent, et ainsi de suite, comme on va le voir dans la suite des paroles de l'auteur, rahimahullah ta'ala. Donc ici, il nous a clairement dit que les savants du hadith ont fait la différence entre la critique des rapporteurs, des narrateurs du hadith, et la médisance. La médisance est interdite, et la critique des rapporteurs, elle est permise, et c'est même une noble action qui a pour but de préserver la religion. Ensuite, il va réfuter ici une ambiguïté qui est encore présente jusqu'à nos jours, et qui est de penser que la critique des rapporteurs est différente de la critique des gens de l'innovation ou de ceux qui se trompent dans des questions religieuses, parmi les gens de science ou autres. Il dit, rahimahullah, « وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الطَّعْنِ فِي رَوَاتِ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ وَلَا التَّمْيِيزِ بَيْنَ مَنْ تُقْبَلَ رِوَايَتُهُ مِنْهُمْ وَمَنْ لَا تُقْبَلَ وَبَيْنَ تَبْيِينِ خَطَ مَنْ أَخْطَأَ فِي فَهْمِ مَعَانِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَتَأَوَّلَ شَيْئًا مِنْهَا عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ وَتَمَسَّكَ بِمَا لَا يُتَمَسَّكُ بِهِ لِيُحَذِّرَ مِنَ الْإِقْتِدَاءِ بِهِ فِيمَا أَخْطَأَ فِيهِ. Il dit, rahimahullah, il n'y a pas de différence entre la critique des narrateurs et mémorisateurs du hadith et la distinction entre ceux de qui la narration est acceptée ou non et le fait de clarifier l'erreur de celui qui se trompe dans la compréhension des sens du livre et de la sunna ou qui interprète une partie de ces textes d'une manière contraire à sa bonne interprétation, ou qui s'attache à une chose à laquelle on ne doit pas s'attacher. Car ceci a pour but de mettre en garde contre le fait de le suivre dans ce sur quoi il s'est trompé. L'auteur, rahimahullah ta'ala, il nous dit clairement ici qu'il n'y a pas de différence entre la critique d'un narrateur du hadith et le fait de réfuter l'erreur d'une personne de science dans n'importe quel autre domaine de la religion, que ce soit dans la aqidah, dans la croyance, dans le fiqh, dans le tafsir, l'explication du Coran, ou toute autre question religieuse. Il n'y a pas de différence entre ces deux choses, car elles ont toutes deux pour objectif la préservation de la religion. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent « La science de la critique et l'éloge est révolue. Son temps est terminé. La science de la critique et l'éloge est une science qui est spécifique au rapporteur du hadith. » Ceci est une ambiguïté qui est présente encore jusqu'à aujourd'hui. Et cette parole est totalement fausse. En effet, la science de la critique et l'éloge, elle perdurera jusqu'à la venue de l'heure. Car les gens du faux, les gens de l'innovation, ceux qui propagent des paroles fausses au sujet de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui instaurent des innovations en religion, ils ne cessent d'apparaître à un moment ou à un autre et ils ne cesseront jusqu'à la venue de l'heure. Donc tant que ces gens qui tentent d'altérer la religion seront présents, la science de la critique et l'éloge sera présente. Car la lutte entre le faux et la vérité perdurera jusqu'à la venue de l'heure. Il est donc indispensable que les musulmans puissent distinguer entre le faux et la vérité, puissent distinguer entre celui qui appelle au faux et celui qui appelle à la vérité. Et pour cela, il sera nécessaire de faire usage de cette science, la science de la critique et l'éloge. Donc, comment peut-on dire aujourd'hui que cette science est révolue, que cette science n'a plus lieu d'être, ou que cette science est spécifique à la science du hadith? Il n'y a pas de différence entre le fait de critiquer un narrateur du hadith parce que c'est un menteur ou parce que il a une mauvaise mémoire, donc on ne peut pas lui faire confiance quant à sa transmission des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la réfutation d'une personne qui, par exemple, fait un tafsir du Coran qui est erroné, en expliquant les versets du Coran d'une manière par laquelle aucun savant parmi les imams du tafsir ne l'ont précédé. Ou alors une personne qui altère les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ou les renie. Ou encore une personne qui instaure des innovations dans la prière ou les adorations, et ainsi de suite. Tous ceux-ci doivent être réfutés. Et l'objectif derrière cela n'est autre que la préservation de la religion. Le Cheikh rahimahullah ta'ala nous dit ensuite: وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ أَيْضًا. Et les savants sont unanimes également sur la permission de cela. Il n'y a pas de divergence. Les savants sont unanimes quant à la permission de la réfutation de celui qui se trompe dans une question religieuse, quel que soit le domaine de cette question. Et cela n'est pas spécifique à la science du hadith. Il dit ensuite, rahimahullah, ولهذا نجد في كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وشروح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك ممتلئة بالمناظرات ورد أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. Il dit: c'est pour cela que nous trouvons dans leurs livres écrits, dans les différentes sciences religieuses, que ce soit dans le tafsir, l'explication du Coran, ou les commentaires du hadith, ou le fiqh, la jurisprudence, ou alors ce qui concerne la divergence entre les gens de science, et ainsi de suite, tu trouveras leurs livres remplis de débats ou de discussions argumentées sur certains sujets religieux, et également la réfutation des paroles de ceux dont les paroles sont faibles parmi les imams des salafs et de ceux venus après eux parmi les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, les tabi'in, les disciples des compagnons, la génération qui suit celle des compagnons, et ceux qui sont venus après eux. Les réfutations sont donc présentes dans tous les domaines religieux. Elles ne sont pas spécifiques à la science du hadith. Et ces réfutations, elles sont présentes entre les gens de science parmi les gens de la sunna. Et également, il y a des réfutations contre les gens de l'innovation et des passions. Mais même les gens de la sunna, s'ils se trompent, ils se réfutent les uns les autres. Il n'y a pas de gêne en cela. Si un savant parmi les savants de la sunna se trompe sur une question, il se peut qu'un autre savant le réfute sur cette question, sans que cela ne diminue rien de son rang. Mais il réfute son erreur, afin que les gens ne le suivent pas dans cette erreur. Et celui qui a goûté à la saveur de la science et qui s'est plongé un tant soit peu dans la lecture des livres de gens de science, alors il sait cela avec certitude, car ces réfutations sont présentes dans la majorité des livres des gens de science. Comme on a dit, dans tous les domaines, soit dans le tafsir, le fiqh, le hadith, et ainsi de suite. Ensuite, il dit, rahimahullah, وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَلَدَّعَ فِيهِ طَعْنًا عَلَى مَنْ رَدَّ عَلَيْهِ قَوْلَهُ وَلَا ظَمًّا وَلَا نَقْصًا. Écoutez, ceci c'est très important. Il dit, rahimahullah, et personne parmi les gens de science n'a condamné cela. Personne parmi les gens de science n'a condamné ces réfutations ou les a blâmés. Il dit également, et personne parmi eux, parmi les gens de science, n'a prétendu que la réfutation de sa parole était une critique ou un blâme ou un rabaissement. Les gens de science, ils comprennent cela. Ils savent que si un savant réfute leur parole, c'est qu'il lui est apparu que cette parole était fausse et devait être réfutée. Et il n'a fait cela que par souci de préserver la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'il réfute cette parole. Non pas pour critiquer, pour blâmer ou pour rabaisser l'auteur de cette parole. Ceci n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de préserver la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, il y a des gens, si tu réfutes une erreur, il te dit, tu veux rabaisser ce savant. Cela dénigre les savants. Cela rabaisse les savants, ou veulent les mettre de côté, et ainsi de suite. Pourquoi? Car ils ont réfuté leurs erreurs, ou alors ils ont transmis les paroles de ceux qui ont réfuté les erreurs de ces personnes affiliées à la science. Ensuite, il dit, rahimahullah, « Allahumma illa an yakuna al-musannif mimman yufhishu fil kalam wa yusi'u al-adab fil ibara fa yunkaru alayhi fahashatuh wa isa'atuh دون أصل رده ومخالفته إقامة للحجج الشرعية والأدلة المعتبرة. Donc il a dit, personne parmi les gens de science n'a blâmé ces réfutations. Et personne n'a prétendu que ces réfutations relèvent du domaine du dénigrement ou du blâme ou du rabaissement. Il dit, sauf, il se peut qu'ils aient blâmé une chose, c'est que la personne qui a réfuté ait employé des mauvais termes et eu un mauvais langage. Alors il dit, écoutez bien, c'est très important, on blâme alors ces mauvais termes, son mauvais langage, sans blâmer la base de sa réfutation, et ce afin d'établir les arguments religieux et les preuves dignes de considération. C'est-à-dire qu'il se peut qu'un savant réfute une personne d'une manière qui pourrait comporter pour certains une certaine dureté, ou alors qu'il emploie dans cette réfutation des termes qui ne sont pas convenables. Mais la base de cette réfutation est une réfutation religieuse, basée sur les preuves et sur les arguments tirés du Coran et de la Sunna. Donc dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que sous prétexte qu'il a employé des termes qui ne sont pas convenables, on va rejeter sa réfutation? Non. À partir du moment où sa réfutation est basée sur les preuves, qu'il est venu avec la vérité, on accepte de lui sa réfutation et on blâme et on condamne seulement ces mauvais termes qu'il a employés. Mais sa réfutation, elle est acceptée. Donc ça, comme je vous ai dit, c'est également un point très important à comprendre. Il se peut que parfois vous ayez entendu des paroles de certains parmi les gens de science dire « un tel a de la dureté ». Selon lui, selon son opinion, il a considéré que tel ou tel savant a de la dureté dans sa réfutation. Ceci est un point de vue qui peut être discuté. Mais cette parole, est-ce qu'elle veut dire qu'il a rejeté ses réfutations? Non. Il a rejeté sa dureté seulement, sans rejeter la base de sa réfutation. C'est-à-dire que sa réfutation, il l'a considérée comme juste seulement. Il aurait peut-être aimé qu'il emploie d'autres termes, ou qu'il fasse preuve de moins de dureté, selon son opinion. Et de la même manière, d'un point de vue plus particulier, en ce qui nous concerne dans notre quotidien, il se peut qu'une personne vienne à toi et te blâme au sujet d'une erreur que tu as faite, d'un manquement que tu as eu, et qu'il s'y prenne mal et n'emploie pas les bons termes pour te conseiller. Ces mauvais termes qu'il aurait pu employer, ils ne doivent pas te pousser à rejeter son conseil, même s'il a été dur, même s'il a dépassé les limites dans les termes qu'il a employés avec toi. Tu dois te pencher sur son conseil de manière objective. Si son conseil est juste et qu'il s'avère que tu t'es trompé, que tu es dans l'erreur, que tu as eu un manquement, que tu as délaissé une obligation, ainsi de suite, alors tu te dois d'accepter la base de son conseil et tu ne dois pas la rejeter sous prétexte qu'il t'a mal exposé le conseil. Ceci n'est pas une excuse. Certes, il te revient de le blâmer pour ses mauvais termes ou ce mauvais comportement qu'il a pu avoir, mais il ne te convient en aucun cas de rejeter son conseil. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit « Wasababu dhalika » et la cause de cela, c'est-à-dire la cause pour laquelle les savants n'ont pas blâmé les réfutations. « Wasababu dhalika anna ulama ad-din kulluhum mujmi'un ala qasdi idhari al-haqqi » الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم ولأن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمته هي العليا. Et la cause de cela, la cause pour laquelle les savants n'ont pas blâmé ces réfutations, c'est que les savants de la religion, ils sont tous unanimes sur le fait de vouloir faire triompher la vérité, par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son messager sallallahu alayhi wa sallam, afin que la religion soit tout entière pour Allah, et que la parole d'Allah soit la plus haute. C'est-à-dire que la réfutation des contradicteurs, des opposants, de ceux qui se trompent, ou des gens de l'innovation, l'objectif de cela, ce n'est pas d'importuner les gens, ou de parler sur eux, ou de se soulager, ou de les rabaisser. Lorsqu'un musulman se trompe, qu'il fasse partie des gens de la sunna ou non, on ne se réjouit pas, au contraire. On s'attriste de son erreur, mais ceci n'empêche pas de le réfuter, ou de mettre en garde contre lui afin que les gens ne le suivent pas dans sa fausseté. Car la base, comme on a dit, est que le fait de préserver la religion est prioritaire. Si par exemple il y a une personne qui est suivie, qui a un grand public, et qui appelle les gens à l'innovation, qui appelle les gens à une voie déviante, qui appelle les gens à une croyance égarée, et ainsi de suite, nous on ne se soucie pas de cette personne. Mais on se soucie des gens qui l'écoutent, et des gens qui risquent de le suivre dans son égarement, et des gens qui risquent de dévier de la voie de la vérité en raison de cette personne. C'est pour cela qu'il est nécessaire de mettre en garde contre lui, contre cette personne, ou contre ce groupe, ou contre cette chaîne, ou contre ce site, et ainsi de suite. Et ceux qui n'apprécient pas cela, ceux qui n'apprécient pas ces mises en garde, ou ces conseils, en réalité, ils rejettent cela seulement car leur vision est très restreinte. Ils ont une vision restreindre des choses. Lorsque tu dis un tel est un innovateur, un tel est un menteur, un tel fait partie de telle secte, en raison de leur ignorance des objectifs de la législation, Ils vont te dire, oui, mais cette personne a des paroles profitables aussi. Oui, mais beaucoup de gens ont connu la vérité à travers ce site ou à travers ce blog. Oui, mais ils ont fait beaucoup de bien aussi. Certes, ils font des erreurs, mais ils ont fait beaucoup de bien. Ils font beaucoup d'efforts et ainsi de suite. Et toutes ces paroles, elles ne sont pas basées sur un raisonnement religieux, mais elles sont basées en réalité sur un raisonnement émotionnel. La personne, elle parle en fonction de ses émotions, en fonction de ses sentiments, et non pas en fonction de la religion. C'est comme si cette personne, pour elle, ou ce site, ou ce blog, ou cette chaîne, était plus importante que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne la dérange pas de voir ces gens qui parlent sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science, qui s'avancent dans tout domaine religieux sans science, qui parlent au sujet de la croyance, au sujet du fiqh, au sujet du hadith, au sujet du tafsir, sans aucune science. Cela ne lui pose pas de problème. Par contre, si on parle avec science sur cette personne, ou sur ce site, ou sur ce blog, ou sur cette chaîne, alors là, elle est gênée. Non, il ne faut pas parler sur eux. Est-ce que cette personne est plus aimée pour toi que le dîn? Est-ce que cette personne est plus aimée pour toi que le tawhid? Est-ce que cette personne, ou ce blog, ou cette chaîne, est plus aimée pour toi que la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Préfères-tu cette personne à la religion? Cela ne te dérange pas qu'elle parle sur la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sans science? Mais ça se dérange qu'on parle sur elle. Tu préfères préserver l'honneur de ton cheikh, de ton enseignant, de ce prédicateur que tu suis, de cette chaîne que tu regardes, de ce blog que tu consultes, pourquoi? Au détriment de la préservation de la religion. Tout ceci en raison du fanatisme, et en raison, comme je l'ai dit, de cette vision restreinte des choses. Certaines personnes, ils savent que leur cheikh, ou le prédicateur qu'ils suivent, a prononcé des paroles gravissimes, des paroles contraires à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Des paroles qui s'opposent à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais il voudrait qu'on se taise à son sujet. Il préfère préserver l'honneur de son cheikh plutôt que préserver la religion wal iyad billah. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, ici, il nous clarifie que les savants de la religion, ils sont unanimes quant au fait qu'il est prioritaire de faire triompher la religion. Que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala soit la plus haute. Ensuite il dit, et ceci également est très important, « Wa kulluhum » معترفون بأن الإحاطة بالعلم كله من غير شذوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهم ولا ادعاه أحد من المتقدمين ولا من المتأخرين. Et tous, c'est-à-dire tous les savants, ils reconnaissent que le fait d'englober la science tout entière, sans aucune erreur, c'est un rang que personne parmi eux n'a atteint. Et personne parmi eux n'a prétendu cela parmi les savants anciens ou les savants contemporains. C'est-à-dire que personne parmi les gens de science n'est à l'abri de l'erreur. Tout enfant d'Adam fait des erreurs, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas un savant qui est infaillible. Il n'y a pas un prédicateur qui est infaillible. Il n'y a pas un étudiant qui est infaillible, et ainsi de suite. Tous ont des erreurs. Et ceci est inévitable. Donc à partir de cela, à partir du moment où ils savent qu'il est possible qu'ils fassent des erreurs, ils acceptent que l'on réfute ces erreurs. Il dit ensuite, rahimahullah, فَلِهَذَا كَانَ أَئِمَّةُ السَّلَفِ الْمُجْمَعُ عَلَى عِلْمِهِمْ وَفَضْلِهِمْ يَقْبَلُونَ الْحَقَّ مِمَّنْ أَوْرَدَهُ عَلَيْهِمْ. Et c'est pour cela que les imams des salafs, ceux au sujet desquels on est unanime concernant leur science et leur mérite, ils acceptaient la vérité de ceux qui leur présentaient. Allahu Akbar. Ils acceptaient la vérité de ceux qui leur présentaient. Si quelqu'un venait avec eux avec la vérité, en leur démontrant leur erreur, ils acceptaient cela. Et ceci fait partie des caractéristiques les plus éminentes démontrant la véracité du savant. Il revient de ses erreurs. Lorsqu'on lui montre qu'il s'est trompé, il ne va pas mobiliser ses suiveurs contre ceux qui l'ont réfuté, comme le font certains parmi les gens aujourd'hui. Lorsqu'il se trompe, et que son erreur est démontrée, il essaye de mobiliser les gens contre celui qui l'a réfuté. Et il essaye de diaboliser celui qui l'a réfuté. Et ceci est contraire à la voie de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Car nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, ils vénéraient la vérité, et ils ne vénéraient pas leur personne. Mais aujourd'hui, on trouve certaines personnes qui se sont enorgueillies face à la vérité, ou enorgueillies face aux gens de la vérité, et qui ont fait prévaloir leur personne sur la vérité. Donc, si quelqu'un les réfute, si quelqu'un démontre qu'ils se sont trompés, alors il va mobiliser ses suiveurs afin de s'en prendre à celui qui l'a réfuté. comme on l'a vu de certaines personnes qui, lorsqu'elles ont été critiquées par les grands savants de notre époque, ont dit à leurs suiveurs, vous êtes mon soutien. Antum sanadi. Il a appelé ses suiveurs à le soutenir contre les mises en garde des savants, au lieu d'accepter la vérité à laquelle l'ont appelé ces savants, Allah al-Musta'an. Ensuite, il dit, rahimahullah, فلهذا كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا. Les imams des salafs, ceux au sujet desquels on est unanime concernant leur science et leur mérite, ils acceptaient la vérité de celui qui leur présentait, même s'il était petit. Même s'il était petit. Ici, le cheikh, rahimahullah ta'ala, il réfute une ambiguïté très dangereuse présente aujourd'hui, soutenue par certaines personnes affiliées à la science, qui est que le savant, seul un savant peut le réfuter. C'est-à-dire que pour eux, si un étudiant en science voit qu'un savant s'est trompé, il n'a pas le droit de réfuter son erreur. Il doit se taire. Seul un savant peut réfuter le savant. Et ceci est une règle innovée qui n'a aucune source et aucune preuve dans les textes de la législation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, Man ra'a minkum munkara, falyughayyirhu. Celui parmi vous qui voit un mal, qu'il le change. Ensuite, il a mentionné les degrés. Par la main, par la langue, par le cœur, et ceci, le minimum de la foi. Il n'a pas dit sallallahu alayhi wa sallam, seul le savant change le blâmable. Mais il a dit celui parmi vous, qu'il soit petit ou grand, savant ou étudiant, s'il voit une chose blâmable, qu'il la change. S'il le peut par sa main, s'il ne peut pas par sa langue. Il réfute. Il lui est apparu qu'un savant s'est trompé, qu'il a fait une erreur sur une question religieuse. Il présente sa réfutation basée sur les preuves du Coran et de la Sunna. Et il n'y a aucune gêne en cela. Donc ceux qui émettent cette condition et qui disent que seul le savant peut réfuter le savant, ils n'ont aucune preuve justifiant cette règle. Et on voit à travers cela l'erreur de certaines personnes qui disent « Oui, mais ceux-là sont des jeunes. Notre cheikh ne prête pas attention à eux. » Comment ça, il ne prête pas attention à eux? Est-ce que cela est la voix de nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala? Sous prétexte qu'une personne qui te réfute est un jeune, est un petit, tu n'y prêtes pas attention? Non, tu dois porter le regard sur cette réfutation, de manière objective. Et s'il est venu avec la vérité, alors tu te dois de l'accepter. Et telle est la modestie. Telles sont les caractéristiques des savants. Ils acceptent la vérité de celui qui leur présente, qu'il soit petit ou grand, qu'il soit pieux ou pervers, et même qu'il soit croyant ou mécréant. Même si un mécréant t'adresse un blâme et qu'il a raison sur ce blâme, tu te dois de l'accepter. Le fait qu'il soit mécréant n'est pas une excuse pour rejeter son blâme. Si son blâme est avéré, il est obligatoire pour nous de l'accepter. Et ce n'est pas une condition que ce blâme te soit adressé par une personne de ton rang, une personne de ton âge ou autre. Mais celui qui révère la vérité, qui donne à la religion sa juste valeur, il accepte la vérité de quiconque lui aura présenté. Ensuite il dit, rahimahullah, وَيُوصُونَ أَصْحَابَهُمْ وَأَتْبَاعَهُمْ بِقَبُولِ الْحَقِّ إِذَا ظَهَرَ فِي غَيْرِ قَوْلِهِمْ. Donc toujours en parlant des imams, des salafs, des imams, des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, il dit, et ils recommandaient, ils enjoignaient à leurs compagnons et à leurs suiveurs d'accepter la vérité si elle apparaît dans une parole autre que la leur. Allahu Akbar. Regardez comment étaient nos imams, rahimahumullah ta'ala. Si la vérité apparaît dans une parole autre que la leur, ils enjoignaient à leurs suiveurs de la suivre. Ils n'appelaient pas les gens à se fanatiser pour eux, à se fanatiser pour leurs opinions, à se fanatiser pour leurs avis ou pour leurs fatwas. Mais ils appelaient leurs suiveurs à s'attacher fermement à la vérité, aux textes du Coran et de la Sunna, et à faire prévaloir les textes sur la parole de quiconque parmi les gens, aussi éminent soit-il, même si c'est un imam parmi les imams de l'islam. Les textes du Coran et de la Sunna prévalent sur sa parole. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a mentionné un certain nombre d'exemples à ce sujet, certains récits rapportés de nos pieux prédécesseurs, rahimahullah ta'ala, et de nos imams, et on verra cela dans le cours de demain, incha'Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم